chers invités, c'est un moment solennel, c'est un moment de science aussi, c'est un moment de partage de la connaissance. La science est fondamentale dans l'existence humaine. C'est l'un des domaines dont l'on ne peut s'en passer pour le développement et la préservation de l'existence humaine. Cet après-midi, vous êtes là pour célébrer, pour accueillir dans le domaine du savoir un nouveau livre. C'est vrai, un livre n'est jamais un chef-d'œuvre, il le devient. Ce jour-là, mesdames et messieurs, vous êtes là pour assister à la cérémonie des dédicaces de l'ouvrage de M. Louis-Marie Hervé Zoua-Essaigné. L'ouvrage s'intitule « L'État du Vatican », entre parenthèses, le Saint-Siège, et la construction de la paix en Afrique. Très vite, vous devez savoir que Louis-Marie Hervé Zoua-Essaigné est né le 10 août 1997 à Yaoundé. Il a fait ses études primaires à l'école catholique à Louboutin, son parcours secondaire au petit séminaire des Focs, où il sortira de là avec un baccalauréat. Après, il va poursuivre ses études universitaires à l'université de Yaoundé 2, où il obtiendra tour à tour une licence en droit public, puis un master en droit public international et communautaire. Actuellement, l'auteur de l'ouvrage que nous allons assister à la dédicace tout à l'heure est en train de terminer une thèse de doctorat en droit public. Aujourd'hui donc, nous sommes là pour cette cérémonie de dédicace. Je voudrais vous rappeler, mesdames et messieurs, que l'ouvrage dont nous allons assister à la dédicace est écrit en 2 tomes, et l'ensemble des tomes font 400 pages. L'ouvrage a été publié aux éditions Edi-Click, et vous pouvez également retrouver cet ouvrage dans un certain nombre de tabloïds numériques dans le monde. L'ouvrage est également bilingue, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des éditions en français et peut-être dans le temps en anglais, et bien évidemment en d'autres langues. L'ouvrage sera traduit en d'autres langues. Il est donc temps maintenant, mesdames, messieurs, de bien vouloir vous lever à tout seigneur, tout honneur, pour accueillir l'auteur de l'ouvrage dont nous sommes venus assister à la cérémonie de dédicace, M. Louis-Marie Hervé Zoua-Essaigné. Mesdames et messieurs, sur vos ovations, s'il vous plaît, accueillez l'auteur.
Difficile de définir clairement ce que c'est que la paix dans la mesure où, dans chaque domaine de la connaissance, on lui donne un sens. On donne un sens à la paix. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la paix, ce n'est pas une donnée figée, elle est évolutive, elle est dynamique. La paix peut être psychologique, la paix peut être également le fait ou l'absence de guerre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la paix est une construction. Et d'ailleurs, le titre de ce livre le souligne à suffire, une construction. La paix est une construction. Mais dans ce processus de construction, lui, Marie-Hervé Zoua et Cédé réalisent qu'il y a un acteur qui est toujours présent, qui participe, qui accompagne l'Afrique, un continent qui, jusqu'aujourd'hui, peine à se tracer une trajectoire. Un continent qui, régulièrement, dans certains pays, l'Afrique est concernée donc par ces troubles. Il y a quelques années, on disait que le Cameroun est un pays de paix, mais aujourd'hui, il faut ajouter une virgule pour penser qu'il y a, dans certaines zones, moins de calme que dans d'autres. Il y a des nouvelles réalités qui s'imposent à nous. La crise anglophone, entre guillemets, les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a également Boko Haram, à un moment donné. Certes, il y a eu accalmie, mais ce sont des données qu'il faut prendre en considération. Une nouvelle donnée est arrivée aussi, c'est ce qu'on a appelé le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est une façon de participer à créer la paix entre nous, entre les frères, entre les sœurs, entre les voisins. Et donc aujourd'hui, nous allons savoir ce que le Saint-Siège, l'État du Vatican, met sur pied pour construire la paix, sinon pour restaurer la paix dans des endroits où elle semble être menacée. Sur ce panel, puisque c'est un échange intellectuel, c'est un partage de connaissances, il y aura, je vais dire, d'abord deux orateurs de premier plan. Le premier, c'est évidemment l'auteur. Et tout à l'heure, on l'a fait savoir, la valeur d'un homme n'a tant point le nombre d'années, quand on sait qu'il est très jeune. Mais déjà, il nous propose un travail de 400 pages. Mesdames et messieurs, je vais vous prier de l'ovationner, s'il vous plaît. Quand on sait la difficulté qu'il y a à écrire, quand on sait les sacrifices à consentir pour pouvoir arriver au bout de sa réflexion, il est possible de faire des commentaires dans les quartiers. Il est possible d'échanger à la télévision dans le débat, mais faire un travail comme celui-ci, faire un travail profond de recherche comme celui que je tiens entre les mains, ce n'est pas évident. Il prendra la parole en dernier. Mais avant lui, il y aura Hervé Akam. Lui, c'est un auteur également. Il a sur la place publique plusieurs publications. Il a travaillé sur plusieurs domaines de connaissances. C'est un historien des mentalités. Il est parti à l'extérieur pour chercher le feu, c'est-à-dire la connaissance, il est revenu avec. Et lui nous donnera son impression de lecture, ce que nous allons appeler la note de lecture critique. Il nous dira pourquoi il faut lire le livre, pourquoi le livre est intéressant, pourquoi la thématique est-elle pertinente. Hervé Akam sera donc le second orateur majeur de cet après-midi. Merci de l'ovationner, mesdames et messieurs. Un autre orateur, mais non pas de moindre. Lui, je le connais à travers le livre. C'est un passionné de la lecture. C'est un passionné de la promotion du livre. Lui également, c'est un auteur. C'est un poète. Joël, c'est un bobo puisqu'il s'agit de lui. A commencer par mettre sur pied un certain nombre d'initiatives. Il y a le centre notamment d'intégration, sinon d'initiation à la culture et à la lecture. Aujourd'hui, il est passé à un autre cap. Il a décidé de nous proposer une maison d'édition, Ediclic. Je crois que cette maison d'édition est encore à ses premiers pas. Mais regarde l'engagement du promoteur. On réalise tout de suite que ça va aller très loin. Joël Célestin Bobo est éditeur. Et donc, il prendra la parole car c'est lui qui a donné sa caution morale et même intellectuel pour que le livre puisse sortir. Merci de nous rassurer. Quant à moi, je suis juste un lecteur. Je suis Jean-Jacques Foucault. Si je mérite également des ovations, n'hésitez pas. Pour vous souhaiter la bienvenue, messieurs et dames, je m'en vais passer tout de suite le micro à Joël Célestin Foucault, qui est l'éditeur, comme je l'ai dit. Il nous dira pourquoi il a choisi d'éditer ce livre-ci. Mais il nous présentera d'abord la nouvelle maison d'édition qui arrive, Edyclic, avec certainement plein de projets et beaucoup d'initiatives. Merci de l'ovationner une fois de plus.
Mesdames, messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et titres respectifs. C'est avec un réel plaisir qu'il m'est choix de prendre la parole ici au siège de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, lieu de foi, lieu parfois aussi de la haute pensée intellectuelle. Merci à chacun d'entre vous, de manière intime ou personnelle, d'avoir effectué le déplacement pour venir assister à la dédicace de l'ouvrage L'État du Vatican et la construction de la paix en Afrique. Le livre, c'est la rencontre entre le manuscrit, l'auteur et l'éditeur. En septembre dernier, nous avons reçu le manuscrit de l'ouvrage L'État du Vatican, entre parenthèses, un siège, et la construction de la paix en Afrique. Après une analyse minutieuse de notre comité de lecture, nous avons décidé de publier cet ouvrage. La paix est une valeur universelle. Comme l'indique l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la paix est un droit fondamental de l'homme. Pour ce qui est de notre pays, le Cameroun, la paix est une valeur cardinale, car la paix, c'est le premier mot du traité qui constitue notre devise. C'est dire que la paix est assez cruciale, d'abord pour les pères fondateurs de notre chère République, et aussi pour ceux qui mènent à se dessiner aujourd'hui. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à la tribune des Nations Unies, se présentait comme un mendiant de la paix. Éditer un ouvrage qui promeut la paix est assez nécessaire. D'autant plus que, comme l'indique le titre, la construction, la paix est comme un but décisif, c'est-à-dire une construction permanente. On la recherche au quotidien. Elle contribue au dialogue interreligieux, au dialogue entre nations, au dialogue entre peuples. La maison d'édition Edyclic est un démembrement du Centre de lecture, d'initiation et d'intégration à la culture. C'est une initiative que j'ai eu à mettre sur pied depuis 2022. Le Centre de lecture, d'initiation et d'intégration à la culture en abrégé, l'OCLIC, œuvre pour la promotion du livre et de la culture africaine, aussi bien au Cameroun que hors de nos frontières. Nous avons pensé que pour mieux rapprocher le livre du lectorat, parce que c'est notre leitmotiv, il fallait mettre sur pied une de maison d'édition. Édiclic est là pour contribuer à l'éveil des consciences des Africains. Édiclic est là pour contribuer au développement intégral de notre Afrique et partant des Africains. Comme le deuxième nom du développement, c'est la paix, comme l'a indiqué le pape Paul VI, nous avons donc bien débuté par l'ouvrage L'État du Vatican et la construction de la Cathédrale. Édiclic est basé à Yaoundé, à l'avenue du boulevard du Grand-Mère, à l'immeuble siège de la Capose, juste en face du sud. Écrire, c'est donner à sa vie une dimension assez décente. Écrire, c'est parler avec l'immortalité. C'est vivre à travers les âges. C'est vivre à travers le temps. Et c'est aussi vivre à travers l'espace. Nous vous invitons à sortir vos manuscrits de vos tiroirs et de laisser exploser vos mots.
L'homme a créé la machine et la machine a travaillé l'homme. Désolé pour ce désagrément. Alors, comme je le disais tantôt, nous vous invitons à sortir vos manuscrits de vos tiroirs et de publier chez nous. Nous sommes disposés à vous accompagner. Vous pouvez suivre l'exemple de Humarie à Mésois, qui refait bien son nom. Soit à l'âme des robots, désigne l'éléphant. Les hérodons en adage, Zog, Yaku, Ligue Petit. C'est-à-dire que lorsque l'éléphant passe, il laisse des traces. Et par le pied de sa plume, par le truchement de sa plume, lui, Marie, vient de marquer sa vie du sceau de la sénescence, du sceau de l'immortalité. Il laisse aux générations présentes et à la postérité une belle œuvre qui parle. Tout à l'heure, le docteur Hervé Abraham nous donnera un breuvage synthétique pour mieux connaître et comprendre cet ouvrage. Pour finir, je vous prie de vous lever et d'acclamer très fort Louis-Marie Nyabesoa. Je vous remercie.
Merci de vous installer confortablement. Nous nous apprêtons à découvrir le contenu de ce texte. Il a lu pour nous, c'est d'abord du monde. Alors, c'est avec Hervé Hakam. Tout à l'heure, je disais, c'est un auteur, c'est un féru de livres. Il partage régulièrement sur Royal FM avec les auditeurs. Dans le cadre de la virgule littéraire, un livre d'ailleurs. Et aujourd'hui, il a lu pour nous et avant nous cet ouvrage de Louis-Marie Hervézois et Ségué, L'État du Vatican, Saint-Siège et la construction de la paix en Afrique. Et bien, quand vous prenez la parole avec autorité pendant que le public vous ovationne.
Merci pour les applaudissements de l'assistance. Merci aussi à l'éditeur. Merci à l'auteur. Je dois dire que quand on m'a confié la lecture de ce livre, c'est vrai que je suis un peu en tant qu'historien des mentalités. Les mentalités, quand on dit historien des mentalités, ça veut dire vous étudiez les attitudes de la vie et de la mort. Ça vous permet effectivement de comprendre ce que c'est que les problèmes de la religion, ce que c'est que l'histoire, ce que c'est que l'anthropologie, ce que c'est que la philosophie, bref, ce que sont les sciences humaines. Alors c'est pourquoi je voulais préciser ici que j'ai étudié un peu tout ça. Et ce qui fait que quand il faut parler un peu des problèmes de la religion, j'essaie un peu d'apporter ma contribution pour les éditeurs qui n'ont pas vraiment lu ce livre. Alors, je vais donc commencer, mesdames et messieurs. On ne peut pas tout expliquer sous le rapport de la géopolitique, c'est-à-dire des rapports de force entre puissance et État. On se rappelle la fameuse phrase de Staline, lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il demande, mais le pape, combien de divisions? On lui répondit, la foi soulève les montagnes. Je garde une scribe, la médiologie du philosophe Régis de Régis-Hébré, qui explique par l'efficacité symbolique la façon dont les idées deviennent des forces, à savoir comment l'Église catholique est devenue la religion monde, comment Christ est devenu christianisme. Du coup, on peut construire des nouveaux rapports de force matérielle et diplomatique. Il fallait donc que je revienne à la philosophie par la réflexion sur le religieux et les relations internationales de l'Église catholique au service de la paix. Les hommes de foi en rêvaient, bâtir une église sur une terre sainte, puis suggérer un lieu où les croyants réinventeront le monde, c'est-à-dire faire du neuf, après 1000 ans d'histoire de l'église, sans plus prendre en compte ceux qui ont des siècles de construction de l'État, une pensée et une spiritualité qui ont duré, eux, plus longtemps qu'aucun autre collectif humain. Face à cette hubris du présentisme, il était utile d'écrire ce livre magnifique avec une écriture puissante et généreuse et de près de 417 pages qui emprunte à la vision mondiale autant et d'une histoire du Saint-Siège. Ce livre est dédié à la sainteté Benoît XVI de Rethymnon, en saint selon la tradition de l'Église catholique. Comme le fut Saint François qui consacra sa vie aux pauvres et à la paix. Sur la page de remerciement, l'auteur y associe d'autres noms et particulièrement celui de l'évêque Saint-Bélimin, si à Bebeu, mon aveu, parce que je suis d'Abebe aussi. Alors c'est pour ainsi que j'ai voulu souligner que l'évêque Joan est un voisin du village. Aujourd'hui, on nous annonce que le monde est comme sur sa fin, et rien ne semble pouvoir durer, et qui plus est, devient inintelligible, comme disait le philosophe Lévinas. Et pourtant, l'auteur croit le contraire. Deux concepts fondent sa conviction d'une durabilité à toute épreuve. Les accords de Bâton et celui du Saint-Siège, nous dit l'auteur, est le moteur d'instrumentalisation par lequel l'Église œuvre pour atteindre ses missions dans le monde, parmi lesquelles la paix en Afrique. L'Église comme institution et hiérarchie, cite l'auteur, ses relations diplomatiques en Afrique, se demande-t-on souvent, est-elle assez représentée dans les réalités importantes comme l'immigration, l'écologie, si on ne parle que de ces trois derniers pontificats. Vilipendé comme institution pour des raisons compréhensibles, le Saint-Siège y attaquait sans discernement et en s'apparentant à une condamnation sans nuance de l'État du Vatican, quelles que furent les interventions dans les guerres en Afrique, peut-on dire que le Saint-Siège se comporte à la manière d'une ONG. L'auteur répond par la force de l'argument qui repose sur des messages adaptés aux circonstances, sans parti pris, cherchant des voies de réconciliation des parties en conflit. N'est-ce pas là, du point de vue théologique, une adaptation aux mutations du monde, rappelant qu'étant de construction récente, par-delà des vicissitudes du temps, la parole de l'Église est à la fois mémoire et histoire, aussi une perspective commune à proposer que ce soit la paix en Soudan, au Soudan, en Centrafrique et ailleurs. Certes, le champ de l'intervention politique tend à se construire autour du pape, nous revient l'auteur, et qui dispose d'un pouvoir absolu qui peut être compris entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. D'abord, successeur du prince des apôtres, souverain pontife, primat du Vatican, il incarne l'unité de l'Église catholique. Réfléchir sur les propositions de paix formulées par l'Église, c'est pour chacun, croyant ou pas, réfléchir sur la façon de s'adapter et de développer une action ayant tant soit peu prise sur les événements récents. Croire en revanche que le pape et les évêques, comme le prétendent certains, agissent, non, comme sur le principe pacis, qui serait sous influence si ça venait loin de l'espérance et de l'espoir au quotidien. L'Église n'est pas un mouvement politique, ses théologies ne sont pas concurrentes, mais contribuent à une forme d'unité. De même, les spiritualités ne sont pas des courants concurrents d'un mouvement politique. Évidemment, depuis plusieurs siècles, tous les papes issus des différents conclaves placent leur pontificat sous les auspices de la paix et des pauvres, en gardant pour boussole la spiritualité ignatienne. L'Église est une et ne parle que d'une voix. Les chemins spirituels différents, vivant en communion au sein de l'Église catholique, permettent à l'État du Vatican de renouveler constamment son appréhension au monde et à la guerre. Les chrétiens en Afrique se sont souvent toujours posé la question: comment être chrétien dans une Afrique traversée par les conflits? Les encycliques de Benoît XV en 1900, celui de Jean-Paul II, les exhortations apostoliques post-synode à Vicius Minus témoignent des initiatives prises pour préserver la paix et prévenir les guerres. Et il n'y a pas si longtemps, un débat entre les croyants proposé comme thématique la guerre culturelle est perdue et que les chrétiens devaient constituer des communautés de France fonctionnant comme des phares spirituels dans un monde en furie. Une communauté fermée s'opposait à l'idée d'une expérience et du charisme franciscain. Ce fut ce qu'on a appelé le Paris bénédictin. Et le Saint-Siège put compter sur des États africains proches de cette démarche de paix. On s'en va en répétant depuis Max Weber, le sociologue, que l'Église a des docteurs, que le charisme des papes préciserait de la constitution apostolique et de l'institution dotée d'une section des affaires étrangères qui a pour mission d'expédier les affaires concernant les services quotidiens du souverain pontife et qui constitue ce qu'il faut appeler les fraternités affectives. Frères et sœurs s'appellent entre eux les membres du dicastère. L'Église donne l'exemple de concorde. Il y a dans les provisions de l'espace de l'État du Vatican et qui confère à l'élasticité du Saint-Siège une expansion diplomatique exilée faisant partie de sa déconcentration internationale. Il n'y a donc pas de désert diplomatique dans la plus croate quadrillée où serait déposé entre les mains d'un corps mystique incarné par l'évêque, le vicaire, le prêtre, le maître étalon d'une hiérarchie, un calque de certains états modernes d'une République, car la raison comme l'Église catholique est une. Chaque homme de foi a son côté pile et face. Concevoir l'appareillage, c'est-à-dire conférence épiscopale, épiscopale nationale, etc., et d'autres commissions citées par l'auteur, sont non seulement comme des appareils de protection sociale, mais aussi de paix, qui sont la vie de l'âme de l'Église en Afrique. La question qui se pose ici, c'est de savoir comment une conviction peut être soumise en organisation. Cette question en appelle à une réflexion sur les articulations de l'être et du faire, de l'être ensemble et du vivre ensemble. Aujourd'hui, loin de mettre le Saint-Siège en accusation, les amène plus à travers l'Afrique. L'auteur est optimiste, pas archéo-pessimiste comme le fut Héraclite, qui pensait la guerre n'était que favorable aux découvertes des armes et leurs techniques. Le regard de Massacre nous renvoyant à l'époque où la guerre était une entreprise religieuse. L'implication du devin et du sanglant ne faisait pas de doute à ce moment-là. Sur le dernier chapitre, l'auteur rend grâce à l'Église catholique d'avoir canalisé, rythmé et stimulé la testostérone, contribuant de la sorte à une lente et difficile domestication de la guerre. L'auteur en a conscience des limites de l'Église catholique s'agissant de la paix à établir entre les parties en conflit. La paix parfaite n'est pas toujours synonyme de concorde sans faubourg. Le seul enclos de stabilité après les accords furent des ministères aussitôt nés, aussitôt disparus. Si l'individu fût pape, fut-il pape, ou a un caractère comme la société est une physionomie, la nation un caractère, l'Église c'est l'équipe comme un corps de doctrine et des principes. Une certaine continuité entre la Deuxième Guerre mondiale et aujourd'hui nous laisse dire devant une connaissance que nous n'avons pas vue depuis cette période, tiens, c'est bien l'Église catholique, elle a décidément pas changé. Ceci est vrai et faux. Faux, parce qu'il y est arrivé sans doute beaucoup de choses entre-temps qui ont modifié ses réseaux d'amis et ses relations avec le pouvoir. En conclusion, l'altérité en diplomatie conduit à l'identité de l'Église catholique. Cette notion est éminemment active, mais mise au service de la paix. Merci.
Merci Aimé Agam, merci pour cette lecture. Tout à l'heure, vous prendrez peut-être encore la parole. Ce sera dans la phase des questions-réponses, parce que vous allez avoir la possibilité de poser vos questions, toutes vos questions, sur le livre de cet après-midi, le livre qui est présenté. Je rappelle que le sujet est important, c'est la paix, certes, mais c'est également la place de l'État du Vatican dans la construction de la paix en Afrique. On l'a bien vu il y a quelques mois encore, lorsqu'il était question de désigner le nouveau pape. Attention que cela peut cristalliser. Tout le monde regarde, attend la fumée blanche, et c'est parce que justement l'État du Vatican, à travers l'Église, a pris une place prépondérante, joue un rôle. Le premier plan est parfois très pertinent dans la résolution des problèmes, dans la résolution des conflits. On voit notamment dans la crise anglophone le rôle de l'Église. On voit également dans l'Afrique, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, notamment la conférence épiscopale est très dynamique, s'implique notamment dans les
conflits, du moins la résolution des conflits, les tentatives de résolution de conflits dans des pays. Et d'ailleurs, Luther a cité plusieurs pays. Le Rwanda, bien que là-bas, le rôle de l'Église a été présenté comme controversé. Il y a d'autres pays, même la Côte d'Ivoire, qui prendra la parole pour davantage nous dire pourquoi il écrit, pourquoi maintenant, que veut-il dire, à qui s'adresse-t-il. Mais je vais vous poser comme un break, qu'on écoute encore quelques mélodies, histoire de détendre un peu l'atmosphère, car paraît-il la musique adoucit les mœurs, elle ne fait pas que cela, elle édifie, elle parle, elle crie quelquefois. Passons la parole à la chorale du jour. Merci de les ovations, mesdames et messieurs.